Bonsoir. Alors, une bonne nouvelle, la semaine prochaine, ce sera les congés. Donc, il n'y aura pas de cours du soir jeudi prochain. Donc, le prochain, notez-le bien. La porte sera fermée. La porte de la foi sera fermée. Voilà, on reprendra donc le 8 novembre avec une deuxième étape dans ce cours. Après avoir examiné l'acte de foi, et alors ce soir on va terminer en beauté avec cette question redoutable du rapport entre la foi et la raison. Après la foi en son acte, qu'est-ce que c'est que croire? Eh bien ce sera la foi professée, le credo dans l'Église, avec cette première séance qui sera comme une introduction au symbole de la foi, qui est le credo que l'on dit chaque dimanche en Église. Et donc ce sera intitulé « Confesser ma foi et notre foi en Église ». Et ce sera le père Pascal-Marie Géroumanis. Et donc, le 8 novembre, à 18h, vous savez qu'il y a un cours public dans le cadre du séminaire de bioéthique, et ce sera le père Xavier Dijon qui parlera de la vie naissante. Je laisse maintenant la place à Pierre Piret, que je remercie d'avoir bien voulu prendre cette séance. Il n'était prévu sur le programme que pour la séance sur la christologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois en Jésus-Christ. Et vous savez qu'il est professeur de philosophie à l'IET. Et donc, avec beaucoup de générosité, il a accepté de nous parler ce soir du rapport entre la foi et la raison.
Merci Alban. La feuille de route que vous avez pu obtenir à l'entrée présente le plan de l'exposé. Et vous pouvez d'emblée y recourir. Vous voyez que la première partie, une mise au jour de la question. La première partie, une mise au jour de la question, peut être considérée comme une introduction au sujet de ce soir, la foi et la raison. Quant à la seconde partie, les étapes de la réflexion, elle développe progressivement le sujet proprement dit. Et elle comporte deux sections, tout d'abord de la raison à la foi, et ensuite de la foi à la raison. Le schéma qui suit alors le plan sera rencontré à la fin de l'exposé à l'intérieur d'une conclusion. Une mise au jour de la question posée ce soir. Alban vient de le rappeler, nous le savons, l'ensemble du cours qui nous réunit de jeudi en jeudi, excepté jeudi prochain, concerne la foi. Et la première section de ce cours envisage, je cite, « la foi en son acte ». Et cependant, pour terminer cette première section, la leçon de ce soir a pour sujet, avec la foi, la raison. Certes, nous avons déjà évoqué des raisons qui habitent la foi. Il est raisonnable de croire et d'en rendre témoignage raisonnablement. Rappelons-nous la leçon précédente consacrée à Newman, à l'assentiment. Mais voici que ce soir, la foi et la raison, pour ainsi dire, sont mises l'une à côté de l'autre, à traiter comme à égalité. L'intitulé, en effet, comporte les deux mots, la foi et la raison. Abordons dans cette introduction ces deux mots, je dirais, sans préjugés. Et examinons-les simplement en recourant à deux définitions, deux dictionnaires. J'ai consulté le dictionnaire Littré, j'ai consulté le dictionnaire Larousse et j'ai retenu la définition, la double définition de Robert, l'édition de 1991. La foi, je cite, est le fait de croire en Dieu, en un dogme. Soit dit par parenthèse, Larousse disait de croire en un dogme, en la religion, ou éventuellement à la religion elle-même. Je reviens à la définition que j'ai retenue. Le fait de croire en Dieu, en un dogme, par une adhésion profonde de l'esprit et du cœur qui emporte la certitude. Quant à la raison, elle est, je cite encore le dictionnaire Robert, elle est la faculté de penser, en tant qu'elle permet à l'homme de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action. Fin de citation. Dans un dictionnaire, les définitions sont chaque fois singulières, séparées entre elles. Elles n'ont d'ordre que l'énumération de l'alphabet. Tandis que le titre de la leçon de ce soir pose entre la foi et la raison une certaine relation qu'il s'agira de découvrir progressivement. Une remarque tout de même sur les définitions que j'ai proposées, une remarque qui anticipe sur la suite. La définition de la foi désigne, à juste titre, Dieu, mais sans exprimer l'initiative de Dieu. La foi est une adhésion de cœur et d'esprit de l'homme envers Dieu. Nous avons jusqu'à présent bien souligné cette initiative première originaire de Dieu. Nous aurons donc à amplifier cette définition de la foi, je dirais, vers le haut, en considérant la révélation divine. La révélation divine est un des titres de l'exposé de ce soir, indiqué sur la feuille de route. Parallèlement, la raison est définie par l'exercice efficace d'une pensée maîtresse d'elle-même, certes. Mais ici, nous amplifierons cette définition, pour ainsi dire, par le bas, en évoquant les apprentissages de la sagesse humaine. C'est aussi le titre d'un paragraphe de l'exposé de ce soir. Revenons donc à la particule « et », foi et raison. Cette particule marque, je l'ai dit, une relation. Cette relation signifie-t-elle une opposition ? On dira que les lumières de la raison s'opposent à l'obscurantisme de la foi, par exemple. Ou une séparation. La foi, selon la définition, concerne les choses de Dieu, la raison concerne les choses de l'homme. Ou encore une étrangeté réciproque. En privé, je suis croyant, dans ma vie professionnelle, qu'importe. Ou alors, cette relation évoquerait-elle un attrait, un accord, voire même une promotion mutuelle? Le dictionnaire mentionne Dieu à propos de la foi et caractérise l'homme par la raison. Posons à nouveau et de façon résolue, et pour terminer cette première partie qui, je l'ai dit, est une introduction, posons la question de façon résolue de la relation entre la foi et la raison. Comment l'une et l'autre peuvent-elles concerner et Dieu et l'homme ? Comment l'une et l'autre, la foi et la raison, peuvent-elles concerner et Dieu foi et raison, et l'homme, raison et foi. Puisque le cours traite continuellement de la foi, nous pourrions commencer par elle, par la foi, notre réflexion de ce soir, et pour passer ensuite à la raison. Nous suivrions d'ailleurs le titre du cours. Tout de même, la raison est une caractéristique naturelle et universelle de l'homme, alors que la foi est une grâce conférée par Dieu au sein de l'Église. Pour dire les choses autrement, c'est après notre naissance que nous recevons le baptême, et le baptême qui précisément est sacrement de la foi. Aussi commencerons-nous la deuxième partie de l'exposé, les étapes de la réflexion, par la raison. Première section, de la raison à la foi. Premier point, les apprentissages de la sagesse humaine. Dans les moindres choses de la vie quotidienne, nous exerçons notre raison, sans nous en rendre compte nécessairement. Et cette raison est, pour ainsi dire, mise au service de ces choses de la vie quotidienne. Et dès notre petite enfance, celle-là même que nous avons oubliée, qu'éventuellement nous pouvons nous remémorer lorsqu'il s'agira comme parents d'éduquer les petits-enfants, dès notre petite enfance, en effet, nous y sommes éduqués à cette façon de nous comporter raisonnablement. Un enfant capricieux, on lui dira « mais sois raisonnable ». Nous sommes éduqués à la maison, à l'école, en différents lieux de rencontre. Sans relâche, nous faisons les apprentissages de la sagesse humaine. Et il convient, me semble-t-il, de reconnaître avant tout, et avant cette attention à l'exercice réfléchi de la pensée en vue d'un jugement correct poussant à l'action, reconnaissons avant tout une équivalence première entre la raison et la sagesse. Progressivement et plus tard seront posées alors par le jeune homme, par la jeune fille, par le jeune adulte, des choix particuliers impliquant des jugements déterminés. Ces choix particuliers concerneront une profession, une formation qui y prépare, concernant aussi telle ou telle activité propre à notre tempérament, l'activité artistique, l'activité sportive, etc. Mais avant d'aborder cette seconde étape de la raison humaine, prenons acte de la pérennité, de la fécondité de la sagesse quotidienne. Toujours nous avons à remémorer, à intérioriser, à sauvegarder personnellement l'apprentissage raisonnable des choses du monde, d'autrui, de Dieu qui habite notre vie. Nous avons à renouveler, pour ainsi dire, nos commencements premiers. Revenons à la définition du dictionnaire. Voici que nous sommes saisis par un paysage, par une rencontre, par une présence de Dieu, sans beaucoup penser. Serait-ce là déraisonnable? Deuxième point, les domaines de la raison théorique et pratique. La société humaine s'édifie au cours de l'histoire dans les valeurs, dans les projets, j'ai indiqué sur le schéma, dans les domaines, et j'ai indiqué dans le plan. Bref, dans les différentes réalités diversifiées auxquelles les hommes se consacrent individuellement et en commun. On citera par exemple les domaines scientifiques, économiques, politiques, etc. Alors, d'une part, les domaines de la connaissance et de l'action que la raison investit, car chaque fois elle est à l'œuvre dans ces domaines, mais ceux-ci sont chaque fois particuliers et partiels. Telle profession est exercée par telle personne et non par une autre. D'autre part, c'est aussi leur interaction, leur complémentarité, leur promotion réciproque que la raison humaine inscrite en nous reconnaît et se doit de développer, de promouvoir. Et à ce propos, il nous faut ici prendre en compte et considérer, je dirais, pour elle-même, une donnée qui, au cours des siècles récents, est devenue véritablement une caractéristique de notre culture, à savoir l'identification de la raison à la science. D'ailleurs, entendez le titre « Foi et raison », assez spontanément, plusieurs penseront « foi et science ». Et de surcroît, science, science astrophysique ou physique. Or, il y a d'abord plusieurs champs scientifiques. Il y a plusieurs champs scientifiques. Et on peut désigner les sciences empiriques, les sciences formelles et empirico-formelles, désigner la physique, les mathématiques, la chimie et la biologie. On peut désigner aussi les sciences humaines, la psychologie, la sociologie, l'histoire, le droit. En tout cas, et tâchons de ressaisir l'essentiel du projet scientifique, en tous les cas, le projet scientifique, dans chacun de ses investissements, est premièrement un processus d'objectivation, continuellement repris des choses mondaines et humaines. Processus d'objectivation qui précisément permet l'analyse et la synthèse. Processus d'objectivation mise en œuvre précisément de leur signification. Toujours ouverte à des significations ultérieures. En d'autres termes, et c'est sa force, la science est prospective. Comme telle, elle ne connaît pas, dans sa prospection, de référence ultime, ni d'origine fondatrice. Par exemple, si la recherche s'interdit certaines mises en pratique, elle le fera pour un motif extra-scientifique, par exemple, d'ordre éthique. La philosophie, quant à elle, reconduit l'homme au fondement premier de tous ses projets particuliers et conduit l'homme à la finalité dernière de ces mêmes projets. Troisièmement, donc, la philosophie. En quoi la philosophie saisit-elle la raison humaine dans son essence, dans ce qu'elle est? Et nous conduira-t-elle à découvrir ce qui fait le sujet de notre première enquête, à savoir la relation de la raison à la foi? Reprenons ce que nous venons d'évoquer à propos de la science. La science, parce qu'elle est un projet, un processus d'objectivation, ne peut, par définition, d'une certaine façon, elle s'arrêterait. Elle se renierait elle-même. Parce que les projets d'objectivation, elle ne peut coïncider avec l'acte du sujet qui s'implique en ce processus. Donc, l'acte du sujet connaissant ne fait pas partie de l'objet de la science. Par ailleurs, coïncider justement avec l'activité de l'esprit, cela relève de la philosophie. Dans la mesure, et c'est un premier geste si on veut, dans la mesure où l'esprit humain se déprend de son projet d'investissement du monde, il se reprend en lui-même et coïncide réflexivement avec son acte. L'acte par lequel, en son mouvement, l'esprit se fait présence de soi à soi, le manifeste comme un agent et atteste son acte comme lui appartenant en propre. Comment l'homme, interrogation proprement philosophique, comment l'homme est-il présent à soi-même, dans l'action qui est sienne dans le monde, avec autrui, en relation à Dieu? Et en posant la question et en reprenant chacun de ces termes, je peux citer comme matière classique de l'enseignement philosophique l'anthropologie, l'homme, l'ontologie, l'être, l'éthique, l'agir, la cosmologie, le monde, la théologie naturelle, la relation à Dieu. Comment l'homme est-il présent à soi dans l'action qui est sienne dans le monde avec autrui en relation à Dieu? Et de cet acte philosophique, je vous propose une illustration. L'énoncé de René Descartes est bien connu. Je pense, donc je suis. Ou encore, je ne puis douter que je suis, j'existe. Le je ainsi posé appartient évidemment à son auteur singulier, Descartes, qui est le seul à pouvoir le dire. Et en même temps, l'énoncé est universel, en ce qu'il est mis à la disposition de chacun et chacune d'entre nous. Chacun et chacune d'entre nous peut dire « je pense donc je suis ». Chacun et chacune d'entre nous peut, ou non, le reprendre à son compte. Si je le reprends à mon compte, je deviens philosophe. Si je ne le reprends pas à mon compte, l'énoncé est de toute façon à disposition de tous. Autrement dit, l'énoncé « je pense et je suis » met au jour la communauté des hommes en tant que sujet, au pluriel, « je », en tant que sujet dont la raison est d'exister, « je pense, je suis », dont l'existence est raisonnable, « j'existe, je pense ». Engageons-nous dans cet acte et voyons comment il peut nous conduire jusqu'à l'affirmation de Dieu. D'abord, à partir de la pensée. Je pense, je suis, évidemment. Ma pensée et mon existence, pour ainsi dire, se circonscrivent intimement, adéquatement. Mais alors, comment puis-je, par exemple, penser Dieu? Et l'homme peut penser à Dieu. Comment puis-je penser Dieu qui dépasse infiniment cette circonscription, je pense, j'existe, s'il n'est lui-même à l'œuvre dans la pensée que j'ai de lui, et donc qu'il existe? C'est à partir de la pensée, à partir, de la même façon, à partir de l'existence. alors que tous les pouvoirs que j'exerce découlent de mon acte d'exister, du fait que je suis, j'existe. Tous les pouvoirs de pensée et d'action découlent de cela. Et lui demeure immanent. Je peux faire tout ce que je puis et que je veux dans le monde, c'est encore moi qui y suis présent. Et je le sais en toute raison. Tous les pouvoirs que j'exerce découlent de mon acte d'exister, mais je n'ai en rien le pouvoir originaire, réellement fondateur, d'accéder à cet exister qui est pourtant mien. Je ne me suis pas donné à moi-même l'existence. Je ne suis pas l'auteur de la vie dont pourtant, vivant, je vis sans cesse. C'est en développant ce constat que la tradition philosophique accède à l'affirmation de Dieu. Dieu est celui qui est par soi-même, par qui nous sommes. Et c'est ainsi que la raison humaine trouve dans l'affirmation de Dieu et de notre relation à lui, et même dans un autre sens, dans l'affirmation de nous à Dieu et donc à Dieu, c'est dans cette affirmation de Dieu et de notre relation à lui que la raison humaine trouve son accomplissement, sa perfection. Donc je reprends le plan de la raison à la foi, les apprentissages de la sagesse humaine, les domaines de la raison théorique et pratique, et singulièrement le projet scientifique, la philosophie. Jusqu'ici, nous avons suivi une démarche ascendante. Nous avons commencé par la variété des projets de la raison humaine et nous sommes arrivés à la réflexion philosophique. À présent, j'adopte une démarche descendante. Nous évoquons d'abord la révélation de Dieu en Jésus-Christ, avant de passer à la réflexion théologique qui lui rend témoignage. Deuxième section, donc, de la foi à la raison. La philosophie dont je viens de parler est une tâche à mesure d'homme. Celui-ci, par l'usage des ressources naturelles de la raison, est à même de se reconnaître relatif à Dieu, attiré par lui. Ainsi l'homme peut-il se disposer à entendre, à connaître et à aimer Dieu. Si du moins Dieu, et ici nous quittons le domaine de la philosophie à mesure d'homme, si du moins Dieu se révèle à lui, se donne en plénitude d'amour et de connaissance, appelant une réponse, elle aussi, d'amour et de connaissance. Et, dans la grâce de la foi, Dieu se révèle à l'homme. Par la grâce de la foi, nous confessons qu'en effet, Dieu se révèle à lui. L'homme se donne vraiment en plénitude d'amour et de connaissance. Nous sommes dans un autre ordre. Nous sommes dans l'ordre de la foi. La foi chrétienne, singulièrement, confesse que le Christ Jésus, le Fils du Père, est le médiateur de Dieu et des hommes, le grand prêtre, à Timothée 2,5, et le grand prêtre, Hébreux 2,17, qui, scellant par le don de sa vie l'alliance nouvelle et éternelle, conduit ses frères et ses sœurs jusqu'à son Père. Oui, Dieu nous fait entrer dans son intimité divine, les uns et les uns par les autres, dans celui qui est le médiateur de Dieu et des hommes. Alors, en référence à ce que nous venons de voir. Certainement, la révélation de Dieu en Jésus-Christ rejoint les hommes dans la pluralité des valeurs auxquelles ils se consacrent, dans tous ces domaines de la raison théorique et pratique par lesquels l'humanité s'édifie. Cette humanité dont la philosophie découvre qu'elle est relative à Dieu, en attente de celui-ci. La révélation de Dieu rejoint les hommes dans la pluralité des valeurs auxquelles ils se consacrent, dont les recherches scientifiques, dans l'intégration qu'en effectue la réflexion philosophique. Mais, je viens de l'évoquer, la foi en la révélation divine implique véritablement un renversement, une conversion. Il ne s'agit plus seulement de conduire la raison ou de nous conduire en toute raison jusqu'à son accomplissement, qu'est l'affirmation de Dieu. Il s'agit de surcroît d'accueillir ce que Dieu en personne nous révèle et de lui-même et de nous-mêmes en lui. Il s'agit autrement dit d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Or, et je paraphrase le début de la lettre aux Hébreux, or Dieu a parlé à maintes reprises par les prophètes de son peuple Israël. Puis, en ces temps où nous sommes, il a parlé une fois pour toutes en son Fils, Jésus-Christ. Et voici que la révélation divine, je viens de citer les lettres aux Hébreux, voici que la révélation divine fut consignée par écrit dans les Saintes Écritures, dans la Bible, que l'Église reçoit, transmet et commente dans une tradition ininterrompue de foi, de charité, d'espérance. C'est que le Verbe, ou parole, ou révélation du Dieu vivant fait chair, donne vie à toute chair d'homme, ne cesse de s'adapter à nous en nous adaptant à lui. La révélation du Dieu vivant Jésus-Christ ne cesse de s'adapter à nous en nous adaptant à lui-même, pour nous adapter à lui-même. Et la réflexion théologique est au service d'une telle adaptation mutuelle, pour ainsi dire, ou d'une telle conformation, configuration du Christ et des hommes, ses frères, appelés à la vie filiale en Dieu. Deuxième point, la théologie. Je poursuis ce que j'ai déjà indiqué en parlant de la révélation divine. Dieu se communique aux hommes par son Fils Jésus-Christ. Cela est enseigné dans l'Écriture sainte. Et la tradition de l'Église consiste à commenter continuellement cette révélation de Dieu consignée dans les Écritures saintes, de telle sorte que aujourd'hui et à chaque moment de l'histoire des hommes, Dieu s'adapte à nous en nous adaptant à lui. Et la théologie est au service d'une telle coopération entre Dieu et l'homme. Nous reconnaissons dans la foi l'alliance de Dieu avec son peuple et l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ, accomplissement de l'ancienne alliance. Alors je reviens pour le développer à ce que j'ai évoqué de l'Écriture sainte, de la Bible. Nous confessons l'alliance de Dieu avec son peuple, l'alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Alliance en grec se dit diatheke, mais alliance est synonyme de testament. C'est le même terme, diatheke. Or, testament, et plus spontanément quand nous entendons le mot, désigne également, anciens et nouveaux, les deux écrits qui composent, aux yeux des chrétiens, l'unique Écriture sainte. Les évangiles soulignent plusieurs fois que Jésus accomplit les Écritures, que les Écritures sont accomplies en lui. Voyez par exemple le chapitre 19 de Saint Jean, Jésus en croix. Les évangiles soulignent plusieurs fois que Jésus ouvre ses disciples à l'intelligence de l'Écriture. C'est ce qui est dit à propos du ressuscité lorsqu'il rejoint les siens. Ou encore qu'il explique dans les Écritures ce qui le concerne. C'est ce qu'il fait aux disciples d'Emmaüs, ou continuellement aux Juifs au cours des débats qu'il a avec eux, l'Évangile selon Saint Jean. Alors, en invoquant de la sorte les Écritures, Jésus accomplit les Écritures, elles sont accomplies en lui, il explique en elles, toujours au pluriel, les Écritures. Évidemment, en évoquant de la sorte les Écritures, les auteurs, les évangélistes, singulièrement, signifie les écrits qui étaient à leur disposition et à la disposition même de Jésus, à savoir ce que nous, ensuite, nous appellerons Ancien Testament. Ensuite, quand? Lorsque précisément les écrits des évangélistes et des apôtres seront désignés et distingués comme les écrits du Nouveau Testament. Mais cette désignation ne vient pas des auteurs eux-mêmes. Ce n'est pas Saint Luc, Saint Marc et Saint Jean qui ont déclaré un jour « Nous faisons partie de l'Écriture sainte, des Écritures inspirées par Dieu. » Pas plus que Paul, Pierre et Jean. Pas plus que les apôtres, auteurs des lettres dites apostoliques, ni Saint Jean, auteur de l'Apocalypse. Ce sont des chrétiens, d'abord leur compte, temporains, puis leurs successeurs, qui ont rassemblé leurs écrits, les ont insérés dans l'Écriture sainte en tant que Nouveau Testament. Ceux-là, nous les reconnaissons, nous les désignons comme étant les pères de l'Église. Il y a les pères apostoliques du temps des apôtres, les pères apologistes qui soutiennent et défendent et argumentent à propos de la foi chrétienne, etc. Et en majorité, ce sont des pasteurs, des évêques qui engagent, nous allons voir comment, la théologie de l'Église. Au IVe siècle, le canon, c'est-à-dire la circonscription des différents écrits, le canon des Écritures, et singulièrement le canon du Nouveau Testament, est à peu près fixé. Et par ailleurs, cette époque est celle des grandes déterminations des conciles sur la révélation de la Sainte Trinité et du Christ Jésus. À propos des pères de l'Église et de cette insertion des écrits du Nouveau Testament à l'intérieur de l'unique Écriture sainte, il faut souligner ceci. C'est que, pour ainsi dire, ce n'est pas vrai d'un point de vue chronologique, évidemment, mais d'un point de vue réflexif, si vous voulez, d'un point de vue logique, on peut dire que c'est comme un seul geste ou un seul acte pour les pères de l'Église, premièrement, de transmettre l'Écriture. Car, au fond, ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la révélation divine, que la révélation divine se transmettait dans les Écritures saintes et que l'Église elle-même transmettait les Écritures saintes en les expliquant, de telle sorte que la révélation divine soit reçue aujourd'hui comme nous interpellons aujourd'hui, ceux-là, ce sont justement les pères de l'Église qui l'ont non seulement effectué, mais expliqué dans leurs écrits. Ils veulent transmettre l'Écriture sainte comme la révélation même de Dieu. Premier moment, si vous voulez, de ce geste. Deuxièmement, ce sont eux qui redoublent l'Ancien Testament par le Nouveau. en disant d'ailleurs qu'il faut lire l'un et l'autre. L'ancien annonçant le nouveau. Œuvre également des pères de l'Église. Transmettre l'écriture sainte. Il redouble l'Ancien Testament par le nouveau. Mais en expliquant cela et en justifiant cela, que font-ils encore, troisièmement? C'est qu'ils distinguent de l'écriture sainte ce qui devient justement avec eux la réflexion théologique, le commentaire dans lequel eux-mêmes s'engagent. Origène dit ce qu'il pense de l'écriture, et Irénée, et Augustin, et les autres. Et ce qu'ils font, ce qu'ils expliquent ainsi, à leur tour, de même qu'ils transmettent l'écriture sainte, ils le transmettent à l'Église en tant que l'intelligence de l'écriture selon l'Esprit du Christ, c'est-à-dire en tant que théologie chrétienne. La théologie, je ne vais pas entrer dans des détails sur différentes étapes de l'histoire de la pensée chrétienne, de la pensée ecclésiale, mais d'une façon ou d'une autre, la théologie est cela même, découvrir l'intelligence de l'écriture selon l'Esprit du Christ. Et on peut dire, je le faisais pour la philosophie, mais on peut ici désigner quelques disciplines lesquelles la réflexion théologique se déploie. L'exégèse, l'étude du texte de l'Écriture, la théologie dogmatique ou doctrinale, les confessions de foi, les symboles de foi, ce qu'il s'agit de croire, la théologie morale, ce qu'il s'agit de faire en toute charité, par fidélité au Seigneur, la théologie fondamentale ou encore apologétique, qui notamment explique les raisons de croire, ou encore la théologie spirituelle, qui décrit l'expérience qu'un homme, qu'une femme peut faire du tact de Dieu avec elle. Troisième point, la sagesse des évangiles. Donc, vous voyez, je reprends le plan, la révélation divine, la théologie, et pour exposer la théologie, j'ai exposé l'écriture dans la tradition, et enfin, la sagesse des évangiles. En évoquant ce que j'appelais les apprentissages de la sagesse humaine. Au commencement de notre enquête, que nous avons poursuivie ensemble ce soir, sur la raison, j'ai souligné qu'il ne s'agissait pas à proprement parler d'une étape ou d'un domaine particulier de la raison, mais que nous avions à reconnaître sans cesse, avec simplicité, les choses du monde, d'autrui, de Dieu, qui habitent notre vie. Il est raisonnable qu'un enfant apprenne à lire et à écrire, mais tout autant aussi, à prier et à mémoriser l'histoire de Jésus. Il demeure raisonnable qu'au long de notre existence, nous veillions à notre formation humaine et à notre formation chrétienne, qu'elles ne deviennent pas étrangères l'une à l'autre, mais qu'elles s'éclairent et s'adaptent mutuellement. Nous avons expressément considéré les domaines spécialisés de la raison humaine, les sciences et la philosophie, ainsi que la tradition doctrinale, confession de foi et théologie de l'Église. Certainement, la grâce de Dieu en Jésus-Christ concerne toutes ces données, qu'elle sauvegarde, qu'elle purifie, qu'elle élève jusqu'à elle. En même temps, la foi en Dieu qui se révèle appartient à la vie la plus quotidienne, à ses apprentissages les plus immédiats, à ses découvertes les plus simples. Dans les paraboles évangéliques, le Christ Jésus laisse percevoir la proximité de Dieu dans l'expérience humaine aussi manifestement que les fleurs des champs et les oiseaux du ciel, les labeurs d'hommes et les interpellations d'enfants aux différentes heures du jour. La vie quotidienne dans la foi permet de parler de Dieu avec la familiarité simple des contacts premiers et des vérités toutes données. Mais encore, les quatre évangiles relatent les contradictions que Jésus a subies et les souffrances qu'il a éprouvées. Notre foi peut se scandaliser et notre raison s'affoler face au mal, dans la souffrance. Les évangiles nous proposent, nous permettent la contemplation du juste souffrant, de Jésus notre Seigneur à sa passion. Et les mêmes évangiles nous annoncent que, mis à mort, il est ressuscité, qu'il est à jamais vivant parmi nous, de sorte que nous-mêmes vivons par lui, avec lui, en lui. Cela aussi est dit simplement et rejoint notre existence quotidienne, cachée aux yeux des hommes. Nous savons, par exemple, comme les deux disciples qui ce soir-là marchaient vers Emmaüs, comme fait Luc 24, que notre Seigneur nous rejoint sur le chemin, qu'il nous écoute, qu'il nous parle, avant même que nous ne le reconnaissions. Je passe à présent au commentaire du schéma que vous avez sur la feuille de route et ce commentaire est aussi une sorte de conclusion. Conclusion qui peut s'intituler le mystère du Christ ou la confession du Christ. Rappelons ce que nous avons fait. Nous avons commencé par les apprentissages de la sagesse humaine et terminé par la sagesse des évangiles. C'est la même sagesse en toute foi et en toute raison et en toute foi, qui fait la trame de notre vie quotidienne. Puis, nous avons suivi une démarche ascendante de la raison à la foi et une démarche descendante de la foi à la raison. C'est la compénétration des deux démarches dans la personne même du Christ que nous pouvons encore reconnaître à l'aide du schéma. Que fait ce schéma dans la colonne de gauche, dans la colonne de droite? Le schéma met en parallèle la réflexion que nous avons menée, colonne de gauche, et avec la confession du Christ, par les conciles d'Éphèse en 431 et de Chalcédoine en 451. Le concile d'Éphèse insiste sur l'affirmation johannique « Le Verbe s'est fait chair » Jean 1, 14. Prenons la première ligne, celle du haut, et la dernière ligne, celle du bas, à gauche et à droite. La révélation divine qui a fait l'objet de l'exposé, la colonne de gauche a fait l'objet de l'exposé. La révélation divine et le Verbe de Dieu. Et en dessous, ce que j'ai indiqué ici comme projet humain, reprenons plutôt le vocabulaire que nous avons utilisé jusqu'à présent, les théories et les pratiques humaines, ou encore les domaines de la raison théorique et pratique, et le fait que le Verbe de Dieu se fait chair, est devenu l'un de nous. Le Concile d'Éphèse insiste donc sur cette affirmation, le Verbe s'est fait chair. Le Christ Jésus, c'est de lui que Jean parle, est le Verbe de Dieu. C'est-à-dire, il est Dieu qui se révèle. Il est révélation de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est Dieu se révélant de part en part, pour ainsi dire. Et ce Verbe de Dieu, révélateur de Dieu et révélation divine, il a pris chair. Il s'est fait homme. Et en cela, l'humanité qui est nôtre devient sienne. Et il fait que l'humanité qui est nôtre devienne sienne pour que la sienne devienne vraiment nôtre, à nous aussi. Il se fait ce que nous sommes pour que nous soyons faits ce qu'il est. Et ce Verbe de Dieu est le Créateur. Ce Verbe de Dieu est le Rédempteur. Prenons la colonne du bas à gauche. Tous les domaines de la raison théorique et pratique lui sont présents. Ils sont autant à lui qu'à nous. Ils sont autant à nous qu'à lui. Verbe créateur, il les suscite et il les sauvegarde. Verbe rédempteur, il les sauve du péché. Toutes nos connaissances et pratiques en retour, si nous partons cette fois-ci de nous-mêmes et plus de lui, eh bien toutes nos connaissances et pratiques en retour peuvent devenir le chemin de notre sanctification, le chemin de notre communion avec Dieu. Et nous pouvons les exercer, toutes ces théories et ces pratiques, à la louange de la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Prenons à présent, à gauche et à droite, les deux lignes du milieu. Théologie, nature divine, du Christ médiateur. Philosophie, nature humaine, du seul et même Christ médiateur. Ici, c'est le Concile de Chalcédoine qui est illustré. Le Concile de Chalcédoine professe que le Christ Jésus possède la nature divine et la nature humaine. La nature divine, c'est-à-dire qu'il est tout ce qu'est Dieu. Il possède la nature humaine, il est tout ce qu'est l'homme. Et, dit le Concile, les deux natures distinctes entre elles, Dieu n'est pas l'homme, l'homme n'est pas Dieu, elles sont unies en lui. Elles sont distinctes, dit le Concile, mais sans séparation ni division. Elles sont unies sans changement ni confusion. Les deux natures distinctes sont unies en lui dans un merveilleux échange entre Dieu en tout ce qu'il est et l'homme dans tout ce qu'il est. Or, la réflexion théologique, la théologie, colonne de gauche, laisse apparaître ce qu'est Dieu, tout ce qu'est Dieu pour l'homme, pour l'échange avec l'homme. Et la réflexion philosophique laisse apparaître qui est l'homme pour Dieu, tout ce qu'est l'homme pour Dieu, pour un merveilleux échange. Philosophie et théologie sont ainsi, l'une et l'autre, intimes au mystère du Christ, médiateur de l'homme et de Dieu, pour une alliance nouvelle et éternelle. Je vous remercie. Merci.